Vous êtes sur RTL.
Heures, c'est d'abord l'actualité de votre samedi avant de tout vous dire sur la cinquième vague et les inquiétudes à l'approche de Noël. Prenons d'abord de l'altitude car l'univers de la montagne se prépare tant que bien le mal à accueillir les skieurs. Les stations ouvrent au fil des week-ends, mais c'est bien sûr la période des fêtes à venir, la priorité absolue. Dans les Alpes, on se réjouit, même s'il faudra porter le masque dans les remontées mécaniques, avoir son pass sanitaire pour toucher la neige. Le véritable souci du moment pour les professionnels, Serge Puyot, c'est comme partout, c'est le manque de bras.
Nicolas Benfoda dirige deux hôtels à l'Alpe d'Huez. Jamais il n'avait été confronté à pareille situation. Il n'arrive pas à trouver assez de saisonniers pour ses établissements et est donc prêt à aller chercher du personnel jusqu'en Bulgarie.
Actuellement, il nous manque entre 10 et 20% des effectifs. Ça fait entre 15 et 20 personnes manquantes. Si on prend l'exemple de la restauration, ça va nous obliger à refuser des clients de l'hôtel, puisque pas assez de monde en cuisine ou en salle. Si on n'a pas assez de monde pour faire les chambres de nos clients, on va être obligé de refuser d'accueillir des clients qui auraient réservé.
Concrètement, vous avez sollicité une agence d'intérim bulgare ?
On n'a pas le choix puisqu'on a énormément de postes et pas de postulants.
Et puis il y a le problème du pass sanitaire, désormais obligatoire pour être au contact de la clientèle. À l'Alpe d'Huez, 5% du personnel des remontées mécaniques ne serait pas vacciné. Fabrice Boutet, directeur du domaine skiable.
Si le pass n'est pas là, c'est suspension de contrat et on s'organisera derrière pour essayer de pallier à tout cela. La loi, c'est la loi.
Malgré la défection des employés non vaccinés, la station pourra ouvrir normalement ce week-end, mais pour les grosses périodes de vacances, il faudra trouver des solutions.
Reportage RTL dans les Alpes, Serge Puyot. C'est sans doute en raison de ce contexte sanitaire que le Black Friday 2021 affiche un bilan mitigé. Les Français ont moins acheté de vêtements et d'équipements pour la maison. Une baisse globale de 9,5% par rapport à 2019. La seule légère hausse concerne les ventes de matériel informatique. Alors le Covid-19 justement est la cinquième vague. La situation se dégrade. Près de 50 000 nouveaux malades rien que sur la journée d'hier. Le taux d'incidence explose. Le taux de positivité grimpe. Il y a chaque jour près de 200 admissions en soins critiques. C'est en hausse de 51% par rapport à la semaine dernière. Les plans blancs sont déclenchés dans de nombreux hôpitaux du pays. Et c'est dans ce contexte que les personnels de santé appellent à manifester ce samedi. Rassemblement pour réclamer des moyens humains et matériels. Derrière une banderole, l'hôpital public est en danger. Agathe est aide-soignante dans la capitale et elle appelle à l'aide les Français.
Il y a un an et demi, pourquoi ils sont pas dehors? Moi je comprends pas en fait. Moi j'ai vraiment cru que le Covid, les gens s'étaient réveillés et qu'ils allaient être avec nous dehors. Il y a personne. Ils sont tous en train de se plaindre à l'hôpital des conditions d'hospitalisation. Ils sont tous en train de dire qu'on s'occupe pas d'eux et qu'il y a jamais personne quand ils sonnent aux sonnettes. Mais je sais pas, c'est l'occasion de le dire.
Des propos recueillis pour RTL par Julien Fautra. Manifestation donc dans toute la France aujourd'hui et à Paris cet après-midi. Et dans l'urgence, les Français se précipitent pour la troisième dose, la dose de rappel, alors que désormais 12 cas d'infection au variant Omicron ont été recensés en France et qu'un nouveau conseil de défense sanitaire est programmé lundi autour d'Emmanuel Macron. De nouvelles mesures pourraient être annoncées. Va-t-on imiter les Belges, dont les enfants seront en vacances une semaine plus tôt? Va-t-on copier les Irlandais qui ferment leurs discothèques et relancent la distanciation physique dans les restaurants? Ça voudrait dire le retour des restrictions à 3 semaines de Noël. La situation est également sous surveillance concernant les enceintes sportives et les clubs de foot en particulier, Nicolas Georgerot.
Oui, situation surveillée de près. La commission Covid des instances du foot inonde les médecins des clubs depuis 10 jours de recommandations, de messages de vigilance. Au LOSC, par exemple, un foyer de contamination a touché quasiment 30 personnes, du personnel administratif essentiellement. Le secteur professionnel, l'équipe de Jocelyn Gourvennec est pour l'instant épargnée.
On s'adapte, on a remis de la rigueur dans les gestes barrières évidemment, comme partout. Le médical donne aussi des consignes que l'on doit suivre. Voilà, tout le monde a le masque maintenant, même dans les bureaux des staffs. Quand je vois un joueur en entretien dans mon bureau, c'est avec masque aussi. On s'adapte, mais c'est pas l'idéal.
Des relâchements ici ou là ont pu être observés, comme ce club de Ligue 1 qui a fait voyager en avion au contact de l'effectif une personne qui s'est ensuite avérée positive alors que très peu de monde portait un masque. Les experts médicaux de la fédération de la LFP ont planché sur un nouveau protocole cette semaine. Il est en stand-by avant de connaître les annonces du gouvernement lundi.
Nicolas Georgerot, sachez en marge de cette cinquième vague que l'ordre des médecins a adressé hier un blâme au professeur Raoult, sanctionné pour avoir enfreint le code de déontologie médicale en préconisant l'hydroxychloroquine contre le virus malgré l'absence d'effets prouvés. Un blâme commenté hier par le professeur marseillais. C'est une décision qui ménage l'honneur de tous, a-t-il déclaré. Cédric Jubilard, une nouvelle fois entendu hier par le juge d'instruction, audience qui a porté principalement sur la nuit du 15 au 16 décembre 2020, date à laquelle l'infirmière de 33 ans de Cagnac-les-Mines près d'Albi a disparu. Cédric Jubilard a continué à clamer son innocence. Pour ses avocats, la piste du mari est épuisée, mais Patrick Tégéro, c'est l'interrogatoire du fils du couple qui intéresse désormais les enquêteurs.
Bien plus encore que l'audition de son père, celle du petit Louis a fourni des éléments déterminants pour l'accusation. Selon la Dépêche du Midi, le petit garçon de 7 ans a gardé un souvenir très précis de la soirée de la disparition. Il a d'abord regardé la télévision. La France a un incroyable talent avec sa maman et à 23h, il est au lit. Il entend parler fort, il se lève et va dans le couloir. Devant le sapin de Noël, il voit ses parents les bras tendus. Sa mère dit à son père « Arrête-toi, puisque c'est ça, on va se séparer ». Le petit garçon fait du bruit exprès pour se faire remarquer et que la discussion s'arrête. Et il retourne dans son lit. Puis quelqu'un, il ne sait pas qui, a fermé la porte. Il ne reverra plus jamais sa maman. Louis dit aussi ne pas avoir entendu les chiens aboyer ni sa petite sœur pleurer, alors que souvent c'est lui qui réveillait son papa pour donner le biberon. Cédric Jubilard, lui, n'a jamais reconnu avoir eu cette conversation houleuse ce soir-là. Un autre soir, peut-être.
Patrick Tégéro, le correspondant de RTL dans le Sud-Ouest. La politique, c'est d'abord Éric Zemmour, désormais candidat, qui prépare son grand meeting, premier grand meeting. Ça devait être au Zénith à Paris, mais pour des raisons de sécurité et de manifestations annoncées, le rendez-vous a été déplacé donc demain dimanche à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Éric Zemmour qui a désormais son slogan de campagne. Impossible n'est pas français, peut-on lire sur les affiches. Les Républicains, eux, vont savoir qui sera dans la course à l'Elysée. C'est le jour J pour les LR. À 14h30 cet après-midi, Valérie Pécresse ou Éric Ciotti, l'un des deux sera désigné candidat après les derniers votes des adhérents. Hier soir, près de 62% d'entre eux avaient déjà participé au scrutin. Au premier tour, les deux prétendants étaient au coude à coude. Deux camps se sont formés au regard des profils des deux personnalités. Le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a fait son choix et prévient.
Oui, si c'est Ciotti, je quitterai les Républicains parce que c'est à l'encontre même des valeurs que je défends depuis 25 ans. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui, dès aujourd'hui, alors qu'il est censé se battre pour représenter notre parti, admet l'idée que nous serions éliminés de l'élection présidentielle et qu'il pourrait apporter son soutien à Zemmour. Quelqu'un qui a été capable de ne pas prendre position en 2017... quand Le Pen menaçait de remporter le pouvoir. Oui, il n'est pas clair avec ses idées. Et donc, moi, je ne participerai certainement pas à cette union des droites que je dénonce, contre laquelle je m'opposerai jusqu'à mon dernier souffle et qui l'aspire de ses voeux.
Le maire de Saint-Étienne, joint pour RTL par Frédéric Perruche. Le verdict donc chez les LR, 14h30 cet après-midi. La disparition de Françoise Delors, la fondatrice du célèbre zooparc de Beauval, qu'elle avait qualifié de son troisième enfant, zoo dont la renommée avait décollé après l'achat de tigres blancs et surtout l'arrivée de pandas géants prêtés par la Chine. Les sports et les débuts réussis de nos championnes olympiques, les filles du hand ont dominé hier soir l'Angola, 30-20 en ouverture du mondial disputé en Espagne. Pas de souci. Prochain rendez-vous, ce sera demain contre la Slovénie. Le football est la 17e journée de Ligue 1. Ça débute à 17h cet après-midi entre Marseille et Brest. Ça se prolonge à 19h. Lille accueille 3. Et puis ce soir, à vivre dans RTL Foot, le PSG qui se déplace à Lens. Paris sans Neymar, toujours blessé. RTL Foot en direct, c'est 20h-23h. Le numéro à surtout composer ce week-end, vous le savez, c'est celui du Télé pour donner, pour la recherche et pour les enfants atteints de maladies très rares. Ce numéro, c'est le 3637. N'hésitez pas, les Français sont très généreux dans ces périodes de fête en particulier. 6h09, bienvenue tout le monde. Premier regard donc sur ce ciel encore agité ce samedi, Valérie.
Alors c'est vrai qu'il flotte, mais alors à côté de ça, il fait franchement très doux ce matin. D'un seul coup, on est passé en flux de sud. On a 13 degrés en ce moment à Rennes et à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, à Toulouse, à Orléans, des vents qui vont repasser en flux de nord-nord-ouest cet après-midi. Ce qui veut dire que par endroits, on aura plus frais cet après-midi que ce matin. Il pleuvra toujours autant, ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour. On va avoir plein de pluie, notamment entre le sud-ouest et le grand est. De la neige en montagne dans les Alpes, il neige déjà assez abondamment en ce moment dans les Alpes. Une limite de neige qui sera aux alentours de 800 à 1000 mètres maximum, donc on va encore avoir pas mal de quantité. Et à l'arrière de la dégradation, des grains orageux, parfois un petit peu de grésil entre la Normandie, l'Île-de-France, le Nord, la Bretagne ou encore les Pays de Loire. Les températures cet après-midi, 8 à Valence, 9 à Besançon, 10 à Brest et Saint-Etienne, 12 à Paris, à Brive et Angoulême et 15 degrés à Marseille et Fréjus.
Et pour l'instant, on réveille à Denis dans le Jura, il a 2 degrés et Marie-Claude nous passe le coucou du matin depuis Bagneux. Soyez tous les bienvenus. Le quintet.